Chapitre 2. La maison de Scarron. Une heure après, j'étais chez Monsieur Ledru. Le hasard fit que je le rencontrai dans la cour. « Ah ! » dit-il en m'apercevant, « vous voilà, tant mieux. Je ne suis pas fâché de causer un peu avec vous avant de vous présenter à nos convives, car vous dînez avec nous, n'est-ce pas ?»« Mais, monsieur, vous m'excuserez. »« Oh, je n'admets pas d'excuses. Vous tombez sur un jeudi. Tant pis pour vous, le jeudi, c'est mon jour. Tout ce qui entre chez moi le jeudi m'appartient en pleine propriété. Après le dîner, vous serez libre de rester ou de partir. » Sans l'événement de tantôt, vous m'auriez trouvé à table, attendu que je dîne invariablement à 2 heures. Aujourd'hui, par extraordinaire, nous dînerons à 3h30 ou 4. Pyrrhus veut que vous voyiez, et M. Ledru me montrait un magnifique molosse, Pyrrhus a profité de l'émotion de la mère Antoine pour s'emparer du gigot, c'était son droit, de sorte qu'on a été obligé d'aller en chercher un autre chez le boucher. Je disais que cela me donnerait le temps non seulement de vous présenter à mes convives, mais encore celui de vous donner sur eux quelques renseignements. Quelques renseignements? Oui, oui, ce sont des personnages qui, comme ceux du barbier de Séville et de Figaro, ont besoin d'être précédés d'une certaine explication sur le costume et le caractère, mais commençons d'abord par la maison. Vous m'avez dit, je crois, monsieur, qu'elle avait appartenu à Scarron? Oui, oui. C'est ici que la future épouse de Louis XIV, en attendant qu'elle amusât l'homme inamusable, soignait le pauvre Cunjat, son premier mari. Vous verrez sa chambre. À Madame de Maintenon? Non, à Madame Scarron. Ah, ne confondons point, la chambre de Madame de Maintenon est à Versailles ou à Saint-Cyr. Venez. Nous montâmes un grand escalier et nous nous trouvâmes dans un corridor donnant sur la cour. « Tenez, me dit M. Ledru, voilà qui vous touche, monsieur le poète. C'est du plus pur Phébus qui se parla en 1650. Ah, ah oui, la carte du tendre. Aller et retour, hein, tracé par Scarron et annoté de la main de sa femme, rien que cela. » En effet, deux cartes tenaient les entre-deux des fenêtres. Elles étaient tracées à la plume sur une grande feuille de papier collée sur carton. « Vous voyez, continua M. Ledru, ce grand serpent bleu, c'est le fleuve du Tendre. Ces petits colombiers, ce sont les hameaux, petits soins, billets doux, mystères. Et voilà l'auberge du désir, la vallée des douceurs, le pont des soupirs, la forêt de la jalousie, toute peuplée de monstres comme celle d'Armide. Enfin, au milieu du lac où le fleuve prend sa source, voici le palais du parfait contentement. C'est le terme du voyage, le but de la course. Diable, que vois-je là, un volcan? Oui, oui, il bouleverse parfois le pays. C'est le volcan des passions. Oh, il n'est pas sur la carte de Mademoiselle de Scudéry. Non, non, c'est une aventure de Madame Paul Scarron. Et d'une. L'autre? Ah, l'autre, c'est le retour. Vous le voyez, le fleuve déborde, il est grossi par les larmes de ceux qui suivent ses rives. Voici les hameaux de l'ennui, l'auberge des regrets, l'île du repentir. Ah, c'est, on ne peut plus ingénieux. Est-ce que vous aurez la bonté de me laisser copier cela? Oh, autant que vous voudrez. Maintenant, voulez-vous voir la chambre de Madame Scarron? Je crois bien. La voici. Monsieur Ledru ouvrit une porte, il me fit passer devant lui. C'est aujourd'hui la mienne, mais à part les livres dont elle est encombrée, je vous la donne pour telle qu'elle était du temps de son illustre propriétaire. C'est la même alcôve, le même lit, les mêmes meubles. Ses cabines de toilette étaient les siens. Et la chambre de Scarron? Oh, la chambre de Scarron était à l'autre bout du corridor. Mais quant à celle-là, il faudra vous en priver, on n'y entre pas. C'est la chambre secrète, le cabinet de Barbe Bleue. Diable, oui, c'est comme cela. Moi aussi j'ai mes mystères, tout mère que je suis. Mais venez, je vais vous montrer autre chose. Monsieur Ledru marcha devant moi, nous descendîmes l'escalier et nous entrâmes au salon. Comme tout le reste de la maison, ce salon avait un caractère particulier. Sa tenture était un papier dont il eût été difficile de déterminer la couleur primitive. Tout le long de la muraille régnait un double rang de fauteuils, bordé d'un rang de chaises, le tout en vieille tapisserie. De place en place, des tables de jeu et des guéridons. Puis, au milieu de tout cela, comme le Léviathan au milieu des poissons de l'océan, un gigantesque bureau, s'étendant de la muraille où il appuyait sur une de ses extrémités jusqu'au tiers du salon, bureau tout couvert de livres, de brochures, de journaux, au milieu desquels dominait, comme un roi le constitutionnel, lecture favorite de M. Ledru. Le salon était vide. Les convives se promenaient dans le jardin, que l'on découvrait dans toute son étendue à travers les fenêtres. M. Ledru alla droit à son bureau et ouvrit un immense tiroir dans lequel se trouvait une foule de petits paquets semblables à des paquets de graines. Les objets que renfermait ce tiroir étaient renfermés eux-mêmes dans des papiers étiquetés. « Tenez, me dit-il, voilà encore pour vous, l'homme historique, quelque chose de plus curieux que la carte du tendre. C'est une collection de reliques, non pas de saints, mais de rois. » En effet, chaque papier enveloppait un os, des cheveux ou de la barbe. Il y avait une rotule de Charles IX, le pouce de François Ier, un fragment du crâne de Louis XIV, une côte de Henri II, une vertèbre de Louis XV, de la barbe de Henri IV et des cheveux de Louis XIII. Chaque roi avait fourni son échantillon, et de tous ses os, on eût pu recomposer à peu de choses près un squelette qui eût parfaitement représenté celui de la monarchie française, auquel depuis longtemps manquent les ossements principaux. Il y avait en outre une dent d'Abélard et une dent d'Héloïse, deux blanches incisives qui, du temps où elles étaient recouvertes par leurs lèvres frémissantes, s'étaient peut-être rencontrées dans un baiser. Mais d'où venait cet ossuaire? Monsieur Ledru avait présidé à l'exhumation des rois à Saint-Denis et il avait pris dans chaque tombeau ce qui lui avait plu. M. Ledru me donna quelques instants pour satisfaire ma curiosité, puis, voyant que j'avais à peu près passé en revue toutes ces étiquettes, « Allons, me dit-il, c'est assez nous occuper des morts, passons un peu aux vivants. » Et il m'emmena près d'une des fenêtres par lesquelles, je l'ai dit, la vue plongeait dans le jardin. « Vous avez là un charmant jardin, lui dis-je. » Jardin de curé, avec son quinconce de tilleul, sa collection de dahlias et de rosiers, ses berceaux de vignes, ses espaliers de pêchers et d'abricotiers. Vous verrez tout cela, mais pour le moment, occupons-nous non pas du jardin, mais de ceux qui s'y promènent. Ah, dites-moi d'abord, qu'est-ce que c'est que ce monsieur Alliette dit Teila par anagramme ? Qui demandait si l'on voulait savoir son âge véritable ou seulement l'âge qu'il semblait avoir. Il me semble qu'il paraît à merveille les 75 ans que vous lui avez donnés. Ben, justement, je répondis M. Ledru, je comptais commencer par lui. Avez-vous lu Hoffmann? Oui, pourquoi? Eh bien, c'est un homme d'Hoffmann. Toute la vie, il a cherché à appliquer les cartes et les nombres à la divination de l'avenir. Tout ce qu'il possède passe à la loterie, à laquelle il a commencé par gagner un terne et à laquelle il n'a jamais gagné depuis. Il a connu Cagliostro, le comte de Saint-Germain. Il prétend être de leur famille, avoir comme eux le secret de l'élixir de longue vie. Oh, son âge réel, si vous le lui demandez, est de 275 ans. Il a d'abord vécu 100 ans, sans infirmité, du règne de Henri II au règne de Louis XIV, puis, grâce à son secret, tout en mourant aux yeux du vulgaire, il a accompli 3 autres révolutions de 50 ans chacune. Dans ce moment, il recommence la quatrième et n'a par conséquent que 25 ans. Les 250 premières années ne comptent plus que comme mémoire. Il vivra ainsi, et il le dit tout haut, jusqu'au jugement dernier. Au XVe siècle, on eût brûlé Aliette et on eut du tort. Aujourd'hui, on se contente de le plaindre, et on a tort encore. Aliette est l'homme le plus heureux de la terre. Il ne parle que tarot, cartes, sortilèges, sciences égyptiennes de Thoth, mystères isiaques. Il publie sur tous ces sujets de petits livres que personne ne lit, et que cependant un libraire, aussi fou que lui, édite sous le pseudonyme, ou plutôt sous l'anagramme d'Ettaïla. Il a toujours son chapeau plein de brochures. Tenez, voyez-le. Il le tient sous son bras, tant il a peur qu'on lui prenne ses précieux livres. Regardez l'homme, regardez le visage, regardez l'habit, et vous voyez comme la nature est toujours harmonieuse, et combien exactement le chapeau va à la tête, l'homme à l'habit, le pourpoint au moule, comme vous dites, vous autres romantiques. Effectivement, rien n'était plus vrai. J'examinais Aliette et il était vêtu d'un habit gras, poudreux, râpé, taché. Son chapeau à bord luisant comme du cuir verni s'élargissait démesurément par le bas. Il portait une culotte de ratine noire, des bas noirs ou plutôt roux, et des souliers arrondis comme ceux des rois sous lesquels il prétendait avoir reçu la naissance. Quant au physique, c'était un gros petit homme, trapu, figure de sphinx, éraillé, large bouche privée de dents, indiquée par un rictus profond, avec des cheveux rares, longs et jaunes, voltigeant comme une auréole autour de sa tête. « Il cause avec l'abbé Moule, dis-je à Monsieur Ledru, celui qui vous accompagnait dans votre expédition de ce matin. » Expédition sur laquelle nous reviendrons, n'est-ce pas? Et pourquoi y reviendrons-nous? Me demanda M. Ledru en me regardant curieusement. Parce que, excusez-moi, mais vous avez paru croire à la possibilité que cette tête ait parlé. Vous êtes physionomiste. Eh bien, c'est vrai, j'y crois, oui. Nous reparlerons de tout cela, et si vous êtes curieux d'histoire de ce genre, vous trouverez ici à qui parler. Non, mais passons à l'abbé Moule. Ce doit être interrompit, jeune homme d'un commerce charmant. La douceur de sa voix, quand il a répondu à l'interrogatoire du commissaire de police, m'a frappé. Eh bien, cette fois encore, vous avez deviné juste. Moule est un ami à moi depuis 40 ans. Et il en a 60. Vous le voyez, il est aussi propre et aussi soigné qu'Aliette est râpé, gras et sale. C'est un homme du monde au premier degré, jeté fort avant dans la société du faubourg Saint-Germain. C'est lui qui marie les fils et les filles des pairs de France. Ces mariages sont pour lui l'occasion de prononcer le petit discours que les parties contractantes font imprimer et conservent précieusement dans la famille. Il a failli être évêque de Clermont. Savez-vous pourquoi il ne l'a pas été? Parce qu'il a été autrefois ami de Cazotte. Parce que, comme Cazotte, enfin, il croit à l'existence des esprits supérieurs et inférieurs, des bons et des mauvais génies. Et comme à Aliette, il fait collection de livres. Vous trouverez chez lui tout ce qui a été écrit sur les visions et sur les apparitions, sur les spectres, les larves, les revenants. Quoiqu'il parle difficilement, excepté entre amis, de toutes ces choses qui ne sont point tout à fait orthodoxes, en somme, c'est un homme convaincu, mais discret, qui attribue tout ce qui arrive d'extraordinaire dans ce monde à la puissance de l'enfer ou à l'intervention des intelligences célestes. Vous voyez ? Il écoute en silence ce que lui dit Aliette, semble regarder quelque chose, quelque objet que son interlocuteur ne voit pas. et auquel il répond de temps en temps par un mouvement des lèvres ou un signe de tête. Parfois, au milieu de nous, il tombe tout à coup dans une sombre rêverie, frissonne, tremble, tourne la tête, va et vient dans le salon. Dans ce cas, il faut le laisser faire. Il serait dangereux peut-être de le réveiller. Je dis le réveiller car alors je le crois en état de somnambulisme. D'ailleurs, il se réveille tout seul et vous le verrez, dans ce cas, il a le réveil charmant. « Oh, mais, dites donc, fis-je à Monsieur Ledru, il me semble qu'il vient d'évoquer un de ces esprits dont vous parliez tout à l'heure. » Et je montrai du doigt à mon hôte un véritable spectre ambulant qui venait rejoindre les deux causeurs et qui posait avec précaution son pied entre les fleurs sur lesquelles il semblait pouvoir marcher sans les courber. « Ah, celui-ci, me dit-il, c'est encore un ami à moi, le chevalier Lenoir. Lenoir, le créateur du musée des petits Augustins, lui-même. Il meurt de chagrin de la disparition de son musée, pour lequel il y a en 92 et 94 10 fois manqué d'être tué. La restauration, avec son intelligence ordinaire, l'a fait fermer. Avec l'ordre de rendre les monuments aux édifices auxquels ils appartenaient et aux familles qui avaient des droits pour les réclamer. Malheureusement, la plupart des monuments étaient détruits, la plupart des familles étaient éteintes, de sorte que les fragments les plus curieux de notre antique sculpture, et par conséquent de notre histoire, ont été dispersés, perdus. C'est ainsi que tout s'en va de notre vieille France. Il ne restait plus que ces fragments, et de ces fragments, il ne restera bientôt plus rien. Mais quels sont ceux qui détruisent? Mais ceux-là même qui auraient le plus d'intérêt à la conservation. Et M. Ledru, tout libéral qu'il était, comme on disait à cette époque, poussa un soupir. « Sont-ce tous vos convives ? » demandai-je à M. Ledru. « Ah, nous aurons peut-être le docteur Robert. Oh, je ne vous dis rien de celui-là, je présume que vous l'avez jugé. C'est un homme qui a toute sa vie expérimenté sur la machine humaine, comme il eût fait sur un mannequin, sans se douter que cette machine avait une âme pour comprendre les douleurs et des nerfs pour les ressentir. C'est un bon vivant qui a fait un grand nombre de morts. Celui-là, heureusement pour lui, ne croit pas en revenant. C'est un esprit médiocre qui pense être spirituel parce qu'il est bruyant, philosophe parce qu'il est athée. C'est un de ces hommes que l'on reçoit non pour les recevoir, mais parce qu'ils viennent chez vous. Quant à aller les chercher là où ils sont, on n'en aurait jamais une idée. Oh, monsieur, oui, comme je connais cette espèce-là. Nous devions avoir encore un autre ami à moi, plus jeune seulement qu'Aliette, que l'abbé Moule et que le chevalier Lenoir, qui tient tête à la fois à Aliette sur la cartomancie, à Moule sur la démonologie, au chevalier Lenoir sur les antiquités. Une bibliothèque vivante, un catalogue relié en pot de chrétien, que vous devez connaître vous-même. Le bibliophile Jacob, justement. Et il ne viendra pas? Il n'est pas venu du moins, et comme il sait que nous dînons à 2 heures ordinairement, et qu'il va être 4 heures, il n'y a pas de probabilité qu'il nous arrive. Il est à la recherche de quelques bouquins imprimés à Amsterdam en 1570, édition Princeps avec 3 fautes de typographie, une à la première feuille, une à la 7e et une à la dernière. En ce moment, on ouvrit la porte du salon et la mère Antoine parut. « Monsieur est servi » annonça-t-elle. « Allons, messieurs, » dit M. Ledru en ouvrant à son tour la porte du jardin. « À table, à table !» Puis, se retournant vers moi, « Maintenant, me dit-il, il doit y avoir encore quelque part dans le jardin Outre les convives que vous voyez, dont je vous ai fait l'historique, un convive que vous n'avez pas vu et dont je ne vous ai pas parlé. Celui-là est trop détaché des choses de ce monde pour avoir entendu le grossier rappel que je viens de faire et auquel, vous le voyez, se rendent tous nos amis. Cherchez, cela vous regarde. Quand vous aurez trouvé son immatérialité, sa transparente, eine Erscheinung, comme disent les Allemands, vous vous nommerez et vous essaierez de lui persuader qu'il est bon de manger quelquefois, ne fût-ce que pour vivre. Vous lui offrirez votre bras et vous nous l'amènerez. Allez. J'obéis à Monsieur Ledru, devinant que le charmant esprit que je venais d'apprécier en quelques minutes me réservait quelque agréable surprise, et je m'avançai dans le jardin regardant tout autour de moi. L'investigation ne fut pas longue, et j'aperçus bientôt ce que je cherchais. C'était une femme assise à l'ombre d'un quinconce de tilleul, mais dont je ne voyais ni le visage ni la taille. Le visage, parce qu'il était tourné du côté de la campagne, la taille, parce qu'un grand châle l'enveloppait. Elle était toute vêtue de noir. Je m'approchai d'elle sans qu'elle fît un mouvement. Le bruit de mes pas ne semblait point parvenir à son oreille. On eût dit une statue. Au reste, tout ce que j'aperçus de sa personne était gracieux et distingué. De loin, j'avais déjà vu qu'elle était blonde. Un rayon de soleil qui passait à travers la feuillée des tilleuls jouait sur sa chevelure et en faisait une auréole d'or. De près, je pus remarquer la finesse de ses cheveux qui eussent rivalisé avec ces fils de soie que les premières brises de l'automne détachent du manteau de la Vierge. Son cou, un peu trop long peut-être, charmante exagération qui est presque toujours une grâce, si elle n'est point une beauté. Son cou s'arrondissait pour aider sa tête à s'appuyer sur sa main droite, dont le coude s'appuyait lui-même au dossier de la chaise, tandis que son bras gauche pendait à côté d'elle, tenant une rose blanche du bout de ses doigts effilés. Cou arrondi comme celui d'un cygne, main repliée, bras pendants, tout cela était de la même blancheur mate. Oh, on eût dit un marbre de Paros, sans veine à sa surface, sans pouls à l'intérieur. Et la rose qui commençait à se faner était plus colorée et plus vivante que la main qui la tenait. Je la regardais un instant, et plus je la regardais, plus il me semblait que ce n'était point un être vivant que j'avais devant les yeux. J'en étais arrivé à douter qu'en lui parlant, elle se retourna. Donc, deux ou trois fois, ma bouche s'ouvrit et se referma, sans avoir prononcé une parole. Enfin, je me décidai. « Madame, lui dis-je. » Elle tressaillit, se retourna, me regarda avec étonnement comme fait quelqu'un qui sort d'un rêve et qui rappelle ses idées. Ses grands yeux noirs fixés sur moi, avec ses cheveux blonds que je décris, elle avait les sourcils et les yeux noirs, ses grands yeux noirs fixés sur moi avaient une expression étrange. Pendant quelques secondes, nous demeurâmes sans nous parler, elle me regardant, moi l'examinant. C'était une femme de 32 à 33 ans, qui avait dû être d'une merveilleuse beauté avant que ses joues se fussent creusées, avant que son teint eût pâli. Au reste, je la trouvais parfaitement belle ainsi, avec son visage nacré du même ton que sa main, sans aucune nuance d'incarnat, ce qui faisait que ses yeux semblaient de jais et ses lèvres de corail. « Madame, répétai-je, Monsieur Ledru prétend qu'en vous disant que je suis l'auteur d'Henri III, de Christine et d'Antony, Vous voudrez bien me tenir pour présenter et accepter mon bras jusqu'à la salle à manger. Pardon, monsieur, dit-elle. Vous êtes là depuis un instant, n'est-ce pas? Je vous ai senti venir, mais je ne pouvais pas me retourner. Ah, cela m'arrive quelquefois quand je regarde de certains côtés. Mais votre voix rompit le charme. Donnez-moi donc votre bras et allons. Elle se leva et passa son bras sous le mien. Mais à peine, quoiqu'elle me parut nullement se contraindre, sentis-je la pression de ce bras. On eût dit une ombre qui marchait à côté de moi. Nous arrivâmes à la salle à manger sans avoir dit ni l'un ni l'autre un mot de plus. Deux places étaient réservées à table, une à la droite de M. Ledru pour elle, une en face d'elle pour moi. Le soufflet de Charlotte Corday. Ainsi que tout ce qui était chez M. Ledru, cette table avait son caractère. C'était un grand fer à cheval appuyé aux fenêtres du jardin, laissant les trois quarts de l'immense salle libre pour le service. Cette table pouvait recevoir 20 personnes sans qu'aucune fût gênée. On y mangeait toujours, soit que M. Ledru eût 1, 2, 4, 10, 20 convives, soit qu'il mangeât seul. Ce jour-là, nous étions 6 seulement et nous en occupions le tiers à peine. Tous les jeudis, le menu était le même. M. Ledru pensait que pendant les 8 jours écoulés, les convives avaient pu manger autre chose, soit chez eux, soit chez les autres hôtes qui les avaient conviés. On était donc sûr de trouver chez M. Ledru tous les jeudis le potage, le bœuf, un poulet à l'estragon, un gigot rôti, des haricots et une salade. Les poulets se doublaient ou se triplaient selon les besoins des convives. Qu'il y eût peu, point ou beaucoup de monde, M. Ledru se tenait toujours à l'un des bouts de la table, le dos au jardin, le visage vers la cour. Il était assis dans un grand fauteuil incrusté depuis 10 ans à la même place. Là, il recevait des mains de son jardinier Antoine, converti comme maître Jacques en valet de pied, outre le vin ordinaire, quelques bouteilles de vieux Bourgogne qu'on lui apportait avec un respect religieux, et qu'il débouchait et servait lui-même à ses convives avec le même respect et la même religion. Il y a 18 ans, on croyait encore à quelque chose. Dans 10 ans, on ne croira plus à rien, pas même au vin vieux. Après le dîner, on passait au salon pour le café. Le dîner s'écoula comme s'écoule un dîner, à louer la cuisinière, à vanter le vin. La jeune femme seule ne mangea que quelques miettes de pain, ne but qu'un verre d'eau et ne prononça pas une seule parole. Elle me rappelait cette goule des mines une nuit qui se mettait à table comme les autres, mais seulement pour manger quelques grains de riz avec un cure-dent. Après le dîner, comme d'habitude, on passa au salon. Ce fut naturellement à moi de donner le bras à notre silencieuse convive. Elle fit vers moi la moitié du chemin pour le prendre. C'était toujours la même mollesse dans les mouvements, la même grâce dans la tournure, je dirais presque la même impalpabilité dans les membres. Je la conduisis à une chaise longue où elle se coucha. 2 personnes avaient, pendant que nous dînions, été introduites au salon. C'était le docteur et le commissaire de police. Le commissaire de police venait nous faire signer le procès-verbal que Jacquemin avait déjà signé dans sa prison. Une légère tache de sang se faisait remarquer sur le papier. Je signai à mon tour et en signant « Qu'est-ce que cette tache ?» demandai-je. « Et ce sang vient-il de la femme ou du mari ?»« Il vient, me répondit le commissaire, de la blessure que le meurtrier avait à la main et qui continue de saigner sans qu'on puisse arrêter le sang. » Comprenez-vous, monsieur Ledru, dit le docteur, que cette brute-là persiste à affirmer que la tête de sa femme lui a parlé? Et vous croyez la chose impossible, n'est-ce pas, docteur? Parbleu! Vous croyez même impossible que les yeux se soient ouverts? Oh, impossible! Vous ne croyez pas que le sang, interrompu dans sa fuite par cette couche de plâtre qui a bouché irrémédiablement toutes les artères et tous les vaisseaux, ait pu rendre à cette tête un moment de vie et de sentiment? Non, je ne crois pas. Eh bien, dit Monsieur Ledru, moi je le crois. Moi aussi, dit Aliette. Moi aussi, dit l'abbé Moule. Moi aussi, dit le chevalier le noir. Moi aussi, dis-je. Le commissaire de police et la dame pâle seuls ne dirent rien. L'un sans doute parce que la chose ne l'intéressait point assez, l'autre peut-être parce que la chose l'intéressait trop. Oh, si vous êtes tous contre moi, vous aurez raison. Seulement, si l'un de vous était médecin... Mais, docteur, dit Monsieur Ledru, vous savez que je le suis à peu près. En ce cas, dit le docteur, vous devez savoir ce qu'il y a le plus de douleur là-dedans où il y a plus de sentiment et que le sentiment est détruit par la section de la colonne vertébrale. Et qui vous a dit cela? Demanda Monsieur Ledru. Ben, la raison, parbleu. Oh, la bonne réponse! Est-ce que ce n'est pas aussi la raison qui disait aux juges qui ont condamné Galilée que c'était le soleil qui tournait et la terre qui restait immobile? La raison est une sotte, mon cher docteur. Avez-vous fait des expériences vous-même sur des têtes coupées? Ah non, jamais. Avez-vous lu les dissertations de Sommering? Avez-vous lu les procès-verbaux du docteur Su? Avez-vous lu les protestations de Hulscher? Non. Ah, si vous croyez, n'est-ce pas, sur le rapport de M. Guillotin, que sa machine est le moyen le plus sûr, le plus rapide et le moins douloureux de terminer la vie? Oui, je le crois. Eh bien, vous vous trompez, mon cher ami, voilà tout. Ah, par exemple, écoutez, docteur, puisque vous avez fait un appel à la science, je vais vous parler science. Et aucun de nous, croyez-le bien, n'est assez étranger à ce genre de conversation pour n'y point prendre part. Le docteur fit un geste de doute. N'importe, vous comprendrez tout seul alors. Nous nous étions rapprochés de M. Ledru, et pour ma part, j'écoutais avidement cette question de la peine de mort appliquée, soit par la corde, soit par le fer, soit par le poison, m'ayant toujours singulièrement préoccupé comme question d'humanité. J'avais même de mon côté fait quelques recherches sur les différentes douleurs qui précèdent, accompagnent et suivent les différents genres de mort. « Voyons, parlez !» dit le docteur d'un ton incrédule. Il est aisé de démontrer à quiconque possède la plus légère notion de la construction et des forces vitales de notre corps, continua M. Ledru, que le sentiment n'est pas entièrement détruit par le supplice. Et ce que j'avance, docteur, est fondé non point sur des hypothèses, mais sur des faits. Voyons ces faits. Les voici. Premièrement, le siège du sentiment est dans le cerveau, n'est-ce pas? C'est probable. Les opérations de cette conscience du sentiment peuvent se faire, quoique la circulation du sang par le cerveau soit suspendue, affaiblie ou partiellement détruite. C'est possible. Si donc le siège de la faculté de sentir est dans le cerveau, aussi longtemps que le cerveau conserve sa force vitale, le supplicié a le sentiment de son existence. Ah, des preuves, les voici. À l'heure, dans ses éléments de physique, tome 4, page 55, dit « Une tête coupée ouvrit les yeux et me regarda de côté, parce que du bout du doigt, j'avais touché sa moelle épinière. » Alors, soit, mais alors a pu se tromper. Il s'est trompé, je le veux bien. Passons à un autre. Wicard, Art philosophique, page 221, dit « J'ai vu se mouvoir les lèvres d'un homme dont la tête était abattue. » Bon, mais de se mouvoir à parler, attendez, nous y arrivons. Voici Sommering. Ses œuvres sont là et vous pouvez chercher. Sommering dit « Plusieurs docteurs, mes confrères, m'ont assuré avoir vu une tête séparée du corps grincer des dents de douleur, et moi je suis convaincu que si l'air circulait encore par les organes de la voix, les têtes parleraient. » « Eh bien, docteur, continua M. Ledru en pâlissant, je suis plus avancé que Sommering. Une tête m'a parlé à moi. » Oh, nous tressaillîmes tous. La dame pâle se souleva sur sa chaise longue. « À vous ? Oui, à moi. Direz-vous aussi que je suis un fou ? Dame, dit le docteur, si vous me dites qu'à vous-même... Oui, je vous dis qu'à moi-même la chose est arrivée. Vous êtes trop poli, n'est-ce pas, docteur, pour me dire tout haut que je suis un fou ? Mais vous le direz tout bas, et cela reviendra absolument au même. » « Eh bien, voyons, contez-nous cela, » dit le docteur. « Oh, cela vous est bien aisé à dire. Savez-vous que ce que vous me demandez de vous raconter à vous, je ne l'ai jamais raconté à personne, depuis 37 ans que la chose m'est arrivée ? Savez-vous que je ne réponds pas de ne point m'évanouir en vous la racontant, comme je me suis évanoui quand cette tête a parlé ? Quand ses yeux mourants se sont fixés sur les miens. » Le dialogue devenait de plus en plus intéressant et la situation de plus en plus dramatique. « Oui, oh, le dru du courage, dit Aliette, et contez-nous cela. »« Oh, contez-nous cela, mon ami, dit la bémoule. »« Comptez, dit le chevalier le noir. »« Monsieur, murmura la femme pâle. Moi, je ne dis rien, mais mon désir était dans mes yeux. C'est étrange, dit M. Ledru sans nous répondre, et comme se parlant à lui-même. C'est étrange comme les événements influent les uns sur les autres. Vous savez qui je suis, dit M. Ledru en se tournant de mon côté. Ben, « Je sais, monsieur, répondis-je, que vous êtes un homme fort instruit, fort spirituel, qui donnait d'excellents dîners, et qui est maire de Fontenay-aux-Roses. » Non, monsieur Ledru sourit en me remerciant d'un signe de tête. « Non, je vous parle de mon origine, ma famille, » dit-il. Ben, « J'ignore votre origine, monsieur, et ne connais point votre famille. »« Eh bien, écoutez, je vais vous dire tout cela. » Et puis peut-être l'histoire que vous désirez savoir, et que je n'ose pas vous raconter, viendra-t-elle à la suite. Si elle vient, eh bien, vous la prendrez. Si elle ne vient point, ne me la redemandez pas. C'est que la force m'aura manqué pour vous la dire. Tout le monde s'assit et prit ses mesures pour écouter à son aise. Au reste, le salon était un vrai salon de récits ou de légendes, grand, sombre, grâce aux rideaux épais et aux jours qui allaient mourant, dont les angles étaient déjà en pleine obscurité, tandis que les lignes qui correspondaient aux portes et aux fenêtres conservaient seules un reste de lumière. Dans un de ces angles était la dame pâle. Sa robe noire était entièrement perdue dans la nuit. Sa tête seule, blanche, immobile et renversée sur le coussin du sofa, était visible. Monsieur Ledru commença. « Je suis, dit-il, le fils du fameux Comus, physicien du roi et de la reine. Mon père, que son surnom burlesque a fait classer parmi les escamoteurs et les charlatans, était un savant distingué de l'école de Volta, de Galvani et de Mesmer. Le premier en France, il s'occupa de fantasmagorie et d'électricité, donnant des séances de mathématiques et de physique à la cour. La pauvre Marie-Antoinette, que j'ai vue 20 fois, et qui plus d'une fois m'a pris par les mains et embrassé lors de son arrivée en France, c'est-à-dire lorsque j'étais un enfant, Marie-Antoinette raffolait de lui. À son passage en 1777, Joseph II déclara qu'il n'avait rien vu de plus curieux que Comus. Au milieu de tout cela, mon père s'occupait de l'éducation de mon frère et de la mienne, nous initiant à ce qu'il savait de sciences occultes et à une foule de connaissances galvaniques, physiques, magnétiques, qui aujourd'hui sont du domaine public, mais qui, à cette époque, étaient des secrets, privilèges de quelques-uns seulement. Le titre de physicien du roi fit, en 93, emprisonner mon père. Mais, grâce à quelques amitiés que j'avais avec la montagne, je parvins à le faire relâcher. Mon père, alors, se retira dans cette même maison où je suis, et il mourut en 1807, âgé de 76 ans. Bon, revenons à moi. J'ai parlé de mes amitiés avec la montagne. J'étais lié, en effet, avec Danton et Camille Desmoulins. J'avais connu Marat plutôt comme médecin que comme ami. Enfin, je l'avais connu. Il résulta de cette relation que j'eus avec lui, si courte qu'elle ait été, que le jour où l'on conduisit Mademoiselle de Corday à l'échafaud, je me résolus à assister à son supplice. Ah, j'allais justement, interrompis-je, vous venir en aide dans votre discussion avec M. le docteur Robert sur la persistance de la vie en racontant le fait que l'histoire a consigné relativement à Charlotte de Corday. Nous y arrivons, interrompit M. Ledru. Laissez-moi dire. J'étais témoin, par conséquent, à ce que je dirais, vous pourrez croire. Dès 2 heures de l'après-midi, j'avais pris mon poste près de la statue de la Liberté. C'était par une chaude matinée de juillet, le temps était lourd, le ciel était couvert et promettait un orage. À 4 heures, l'orage éclata. Je vis à ce moment-là même, à ce que l'on dit, que Charlotte monta sur la charrette. On l'avait été prendre dans sa prison au moment où un jeune peintre était occupé à faire son portrait. La mort jalouse semblait vouloir que rien ne survécût de la jeune fille, pas même son image. La tête était ébauchée sur la toile, et, chose étrange, au moment où le bourreau entra, le peintre en était à cet endroit du cou que le fer de la guillotine allait trancher. Les éclairs brillaient, la pluie tombait, le tonnerre grondait, mais rien n'avait pu disperser la populace curieuse. Les quais, les ponts, les places étaient encombrés. Les rumeurs de la terre couvraient presque les rumeurs du ciel. Ces femmes, qu'on appelait du nom énergique de lécheuses de guillotine, la poursuivaient de malédictions. J'entendais ces rugissements venir à moi comme on entend celui de cataracte. Longtemps avant que l'on pût rien apercevoir, la foule ondula. Enfin, comme un navire fatal, la charrette apparut, labourant le flot, et je pus distinguer la condamnée que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue. C'était une belle jeune fille de 27 ans, avec des yeux magnifiques, un nez d'un dessin parfait, des lèvres d'une régularité suprême. Elle se tenait debout, la tête levée, moins pour paraître dominer cette foule que parce que ses mains liées derrière le dos la forçaient de tenir sa tête ainsi. La pluie avait cessé, mais comme elle avait supporté la pluie pendant les 3/4 du chemin, l'eau qui avait coulé sur elle dessinait sur la laine humide les contours de son corps charmant. On eût dit qu'elle sortait du bain. La chemise rouge dont l'avait revêtu le bourreau donnait un aspect étrange, une splendeur sinistre à cette tête si fière et si énergique. Au moment où elle arrivait sur la place, la pluie cessa, et un rayon de soleil, glissant entre deux nuages, vint se jouer dans ses cheveux, qu'il fit rayonner comme une auréole. En vérité, je vous le jure, quoiqu'il y eût derrière cette jeune fille un meurtre, action terrible, même lorsqu'elle venge l'humanité, quoique je détestasse ce meurtre, je n'aurais su dire si ce que je voyais était une apothéose ou un supplice. En apercevant l'échafaud, elle pâlit. Et cette pâleur fut sensible, surtout à cause de cette chemise rouge qui montait jusqu'à son cou. Mais presque aussitôt, elle fit un effort et acheva de se tourner vers l'échafaud, qu'elle regarda en souriant. La charrette s'arrêta. Charlotte sauta à terre, sans vouloir permettre qu'on l'aidât à descendre. Puis elle monta les marches de l'échafaud, rendue glissante par la pluie qui venait de tomber, aussi vite que le lui permettait la longueur de sa chemise traînante et la gêne de ses mains liées. En sentant la main de l'exécuteur se poser sur son épaule pour arracher le mouchoir qui couvrait son cou, elle pâlit une seconde fois, mais à l'instant même, un dernier sourire vint démentir cette pâleur, et d'elle-même, sans qu'on l'attachât à l'infâme bascule, dans un élan sublime et presque joyeux, elle passa sa tête par les hideuses ouvertures. Le couperet glissa, la tête détachée du tronc tomba sur la plateforme et rebondit. Ce fut alors, écoutez bien ceci, docteur, écoutez bien ceci, poète. Ce fut alors qu'un des valets du bourreau, nommé Legros, saisit cette tête par les cheveux et par une vile adulation à la multitude, lui donna un soufflet. Eh bien, je vous dis qu'à ce soufflet, la tête rougit. Je l'ai vue, la tête. Non pas la joue, entendez-vous bien, non pas la joue touchée seulement, mais les deux joues, et cela d'une rougeur égale, car le sentiment vivait dans cette tête, et elle s'indignait d'avoir souffert une honte qui n'était point portée à l'arrêt. Le peuple aussi vit cette rougeur, et il prit le parti de la morte contre le vivant, de la supplicier contre le bourreau. Il demanda séance tenante, vengeance de cette indignité, et séance tenante. Le misérable fut remis aux gendarmes et conduit en prison. « Attendez !» dit M. Ledru, qui vit que le docteur voulait parler. « Attendez, ce n'est pas tout. » Je voulais savoir quel sentiment avait pu porter cet homme à l'acte infâme qu'il avait commis. Je m'informai du lieu où il était. Je demandai une permission pour le visiter à l'abbaye, où on l'avait enfermé, je l'obtins et j'allais le voir. Un arrêt du tribunal révolutionnaire venait de le condamner à 3 mois de prison. Il ne comprenait pas qu'il eût été condamné pour une chose si naturelle que celle qu'il avait faite. Je lui demandai ce qui avait pu le porter à cette action. « Tiens, dit-il, la belle question, je suis baratiste, moi. » Je venais de la punir pour le compte de la loi. J'ai voulu la punir pour mon compte. Mais, lui dis-je, vous n'avez donc pas compris qu'il y a presque un crime dans cette violation du respect dû à la mort. Oh, ça ! Me dit Legros en me regardant fixement. Vous croyez donc qu'ils sont morts parce qu'on les a guillotinés, vous ? Sans doute. Ah, eh bien, on voit, vous ne regardez pas dans le panier quand ils sont là tous ensemble. Que vous ne leur voyez pas tordre les yeux et grincer les dents pendant 5 minutes, encore après l'exécution. Nous sommes obligés de changer de panier tous les 3 mois, tant ils en saccagent le fond avec les dents. Mais c'est un tas de têtes d'aristocrates, voyez-vous, qui veulent pas se décider à mourir. Je serais pas étonné qu'un jour quelqu'une d'elles se mit à crier « Vive le roi !» Je savais tout ce que je voulais savoir. Je sortis, poursuivi par une idée, c'est qu'en effet cette aide vivait encore, et je résolus de m'en assurer.